Merci beaucoup. C'était une introduction très bien faite, très belle. Et je vais tout de suite profiter de quelque chose que Marie a dit. Elle a dit que, en général, dans le monde aujourd'hui, on entend souvent la phrase « les faits sont les faits ». Eh bien, je demande, qu'est-ce que ça veut dire ? Les faits sont les faits veut dire les faits sont ce qu'on a fait. Ça vient de faire, n'est-ce pas ? Faire, c'est une activité exécutée par un sujet. Et alors, je vais ajouter une chose que n'entre pas dans cette conférence, mais il faut la dire si on parle du constructivisme. Et c'est ça, pour un constructiviste, le constructeur des faits et des théories et des concepts est toujours, lui ou elle, responsable pour ce qu'il a pensé et ce qu'il a fait. Dans le constructivisme, il n'a jamais la possibilité de dire « Eh bien, le monde est comme ça et je n'y peux rien ». On y peut toujours, parce que le monde dans lequel on vit consciemment, c'est le monde qu'on a construit soi-même. Ça, c'est très important, et c'est une des conséquences de la pensée constructiviste. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde parle... Je m'excuse, je dois lire la plupart, parce que je n'ai pas l'habitude de parler en français. Deux ou trois jours, tous les deux ans, ça ne suffit pas à maintenir un style, si vous voulez. Tout le monde parle d'une crise de l'éducation et le degré de compétence des jeunes gens qui sortent des écoles souvent justifie du pessimisme. En effet, il y a un tas de problèmes, beaucoup plus qu'on pourrait traiter dans une seule conférence. Je me limiterai donc à examiner deux problèmes que je considère les plus importants. Le premier concerne les buts de l'éducation. Le second, la perspective constructiviste et les idées que cette école de pensée propose quant à l'acquisition de la connaissance. Eh bien, qu'est-ce que c'est le but de l'éducation? Comme constructiviste, on doit s'occuper de la composition conceptuelle des termes. Lorsque je veux parler de l'éducation, je dois donc expliquer tout de suite que ce terme comprend beaucoup de choses. Le terme « éducation » peut tout aussi bien comprendre l'instruction et la formation, la supervision du développement des compétences spécialisées, l'introduction de l'art à l'art de penser et encore l'initiation aux bonnes manières, au bon goût, à la culture et à d'autres aspects de la vie en société. C'est un tas de choses. Et il me semble évident que les méthodes d'enseignement et d'apprentissage ne peuvent pas être les mêmes dans toutes ces branches. Il y a surtout une différence fondamentale. Certaines choses qu'on doit apprendre sont le résultat du raisonnement. Autres ne le sont pas et ne peuvent pas être générées par la pensée. Voici un exemple. Pour obtenir un permis de conduire, ici et en Europe continentale, il est indispensable que vous appreniez de rouler à droite. La question « pourquoi ne conduit-on pas à gauche ?» est futile, car elle se traite d'une convention sociale pour laquelle il n'y a pas d'autre explication. Cependant, le fait que les nombres 2 et 2 font 4 si on les additionne, peut être trouvé et vérifié par quiconque a appris à compter. Qui a appris à compter peut résoudre ce problème par la conception des unités et des opérations mentales avec celles-ci. Je parlerai plus tard de ce type de connaissance que les élèves peuvent en principe acquérir à partir de leur propre opération mentale. Pour l'instant, je tiens à mettre l'accent sur le fait que l'apprentissage de tout ce qui est considéré correct, parce que la société en a décidé ainsi, est essentiellement une affaire politique. Je dis politique car cela fait référence aux connaissances que la génération plus âgée veut instiller chez les plus jeunes, afin d'assurer la continuation de la société et de maintenir son statu quo. En certains cas, il est tout à fait sensé d'accepter ce type de connaissances. Ainsi, pour reprendre l'exemple banal du code de la route, il est parfaitement raisonnable que tout le monde convienne de rouler du même côté de la route. Mais le choix de rouler à droite plutôt qu'à gauche ne relève pas de la pensée rationnelle. Selon moi, il est indispensable que les enseignants et l'enseignante soient conscients de l'énorme différence entre le raisonné et le convenu, car cette différence implique dans toutes les disciplines des manières d'enseigner qui sont différentes. Ce qui est conventionnel doit être appris, pour ainsi dire, mot à mot. Ce qui est basé sur des opérations rationnelles doit être compris. Les dates en histoire, les noms des éléments chimiques, la succession des mois et des jours de la semaine, le nom des nombres et une multitude d'autres choses doivent être appris par cœur, parce qu'aucun effort intellectuel pourrait conduire à leur découverte. Cela signifie que l'on doit entraîner les élèves à apprendre ce genre de choses afin qu'ils puissent les rappeler en tout temps et le répéter parfaitement au besoin. Nos écoles ont des siècles d'expérience dans l'usage de méthodes aptes à engendrer avec plus ou moins de succès ce type d'apprentissage. De fait, c'est la forme d'apprentissage préférée pour la simple raison que ses résultats sont faciles à vérifier. Quand les élèves répètent quelque chose mot à mot, il est évident qu'ils l'ont apprise. La question de savoir s'ils l'ont comprise et sciemment évité dans ces tests. Les éducateurs et éducatrices ne le disent pas souvent clairement, mais à l'occasion, ils soutiennent que le but fondamental de l'école est de favoriser le développement d'une pensée autonome. Cela implique le deuxième type d'apprentissage que je nomme apprentissage conceptuel, car il est littéralement en lien avec l'activité de conceptualisation. Afin de rendre ma position la plus claire possible, je vais rompre avec les conventions académiques et parler un peu de mon propre développement. Je suis devenu conscient très jeune des problèmes conceptuels parce que j'ai eu la chance de grandir dans un contexte où l'on utilisait plus d'une langue. Ici à Québec, vous jouissez également cette occasion magnifique. Plusieurs d'entre vous rencontreront ainsi presque chaque jour des situations dans lesquelles il vous faut compenser les différences conceptuelles du français et de l'anglais. Que vous deveniez conscient ou non de ce que sont les différences, c'est toute une autre question. Voici un exemple de différence conceptuelle entre le français et l'anglais. Et c'est un exemple qui a une certaine importance aussi aux États-Unis. Dans le dernier chapitre de la construction du réel chez l'enfant, Piaget a écrit, et je cite, « L'intelligence ne débute ni par la connaissance du moi, ni par celle des choses comme telles, mais par celle de leur interaction. Et c'est en s'orientant simultanément vers les deux pôles de cette interaction qu'elle organise le monde en s'organisant elle-même. » Dans la traduction anglaise de Margaret Cook, la fin de ce passage est traduit ainsi. Intelligence organizes the world by organizing itself. J'enseignais l'épistémologie génétique depuis 2 ou 3 ans dans une université américaine où l'on devait utiliser des textes en anglais avant que je ne commence à entrevoir que cette traduction n'était pas satisfaisante. Le mot anglais intelligence ne désigne pas un agent actif qui peut s'orienter lui-même ou encore organiser les choses. L'utiliser dans ce sens est au mieux un usage métaphorique. Le mot qui rend mieux compte de ce que voulait signifier Piaget est mind. Ce mot signifie le siège des activités que l'on peut qualifier d'intelligentes. C'est d'ailleurs un fait étrange qu'il n'existe pas dans la langue française, tout comme dans la langue allemande, un mot équivalent à mind. Ce terme existe en tant qu'adjectif, comme dans les expressions des opérations mentales, mais il n'existe pas en tant que substantif désignant un agent actif. Sûrement en français, vous avez des mots qui couvrent le concept de mind dans certains contextes, mais il n'y a pas une expression spécifique pour l'agent des actions intelligentes. Il s'agit donc d'une différence conceptuelle. Comme dans les milliers d'autres exemples que l'on peut citer, cet exemple montre que les structures conceptuelles qui sous-tendent chaque langue sont rarement tout à fait les mêmes. Plusieurs de ces divergences sont si subtiles qu'il faut être plongé pendant des années dans un autre univers linguiste pour prendre conscience. Un autre exemple. Je demande quelqu'un ici, dans la cité de Québec, la route pour arriver au château Frontenac. Et il dit, allez tout droit. Alors, il me faut savoir qu'en anglais, ça ne serait pas go all right. Parce qu'il y a, dans ce cas, une nette différence conceptuelle entre le français et l'anglais. Le mot droit a plusieurs significations en français, et le mot right et le mot straight ont des significations en anglais. Mais il n'y a pas de couverture complète entre ces mots, parce que les concepts sont différents. Ça vous choquera peut-être si je dis maintenant qu'il n'est pas nécessaire d'examiner une langue étrangère pour repérer de telles différences conceptuelles. En effet, ces différences empêchent fréquemment des gens parlant une même langue de se comprendre. Pour qui a pris au sérieux l'intuition fondamentale de Ferdinand de Saussure, cela ne sera pas surprenant. Selon de Saussure, les mots ne font pas référence aux choses d'un monde réel, mais à des concepts dans la tête des personnes qui parlent. Si par ailleurs vous tenez compte des analyses approfondies de Piaget sur la façon dont les concepts sont construits au moyen de l'abstraction empirique et l'abstraction réfléchissante qu'accomplit l'enfant pour lui-même, il devient clair que cela tiendrait du miracle si les structures conceptuelles dans les différentes têtes étaient exactement les mêmes. Dès que l'on s'engage dans une discussion à propos des sujets abstraits, et plus encore s'il s'agit de problèmes philosophiques, on voit très vite comment la compréhension mutuelle est difficile. Souvent, le sens que les autres attribuent aux mots que nous utilisons n'est pas tout à fait le même que celui que nous avons à l'esprit. Toutefois, beaucoup de gens continuent à s'accrocher aux présupposés tacites selon lesquels les mots font référence à des choses, à des conditions et à des événements qui sont indiscutables car ils existeraient dans un monde qui est indépendant de l'expérience individuelle. Une telle croyance conduit inévitablement à penser que le problème de la connaissance et, par conséquent, de l'apprentissage est un problème de description et de représentation correcte de ce que sont les choses. En d'autres termes, pour comprendre comment fonctionnent les choses, il suffirait de regarder attentivement. L'ère des médias dans laquelle nous vivons favorise le maintien de cette illusion réaliste. Les émissions radiophoniques et télévisées de vulgarisation des sciences portent à croire que les énigmes de l'univers sont plus ou moins résolues. Et des ouvrages de vulgarisation soutiennent que l'on peut connaître et comprendre la réalité absolue. Le fait que les scientifiques les plus reconnus du siècle dernier ont tous, d'une manière ou d'une autre, considéré leurs théories explicatives comme des modèles hypothétiques a généralement peu d'écho, non seulement dans les médias, mais aussi, malheureusement, dans les écoles et les institutions d'études supérieures qui devraient assurer l'initiation des étudiantes et étudiants aux diverses disciplines scientifiques et surtout à la pensée scientifique en général. Cet état de choses me semble fournir une bonne raison pour jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'épistémologie. Au début de la philosophie occidentale, c'est-à-dire à l'ère des présocratiques, quelques penseurs soupçonnaient déjà que le réalisme et ses prétentions objectivistes étaient insoutenables. Ainsi, les sceptiques ont nié avec persistance une telle possibilité pendant plus de 2 millénaires. La plupart des philosophes ont reconnu l'irréfutabilité des arguments des sceptiques. Néanmoins, ils ont continué à espérer trouver le chemin qui menerait à une vérité incontestable à propos du monde réel. Mais les chemins qu'ils ont choisis mène toujours au royaume de la métaphysique, c'est-à-dire ils impliquent tacitement une forme quelconque de croyance mystique. La célèbre métaphore de la grotte de Platon est un bon exemple. Dans cette fable, les êtres humains sont enchaînés dans une grotte dont ils ne voient pas l'entrée. Devant eux, sur le mur de la grotte, ils voient des ombres à partir desquelles ils doivent devenir ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais Platon ajoutait que Dieu avait installé des vérités latentes dans l'âme des humains et que s'ils apprenaient à se servir de leur intuition, ils parviendraient à acquérir des vérités à propos du monde réel. Cette métaphore est puissante car elle représente de manière poétique une situation plausible. Mais elle ne montre pas que cette situation ne peut être décrite que par un Dieu, car seul un Dieu pourrait savoir ce qu'il y a au-delà du champ de l'expérience humaine. Le philosophe italien Giambattista Vico a dit cela d'une très belle façon au début du XVIIIe siècle. Et je cite, « Dieu connaît le monde parce qu'il l'a créé. Les êtres humains ne peuvent connaître ce qu'ils ont fait eux-mêmes. » Le traité duquel cette affirmation est extraite est le premier manifeste constructiviste. Quelques 70 ans plus tard, Immanuel Kant écrivait dans son célèbre ouvrage « La critique de la raison pure » « La raison humaine peut uniquement se saisir ce qu'elle a elle-même produit selon ses propres plans. » Je répète ça parce que c'est une expression, je crois, très très importante. « La raison humaine peut uniquement saisir ce qu'elle a elle-même produit selon ses propres plans. » Cependant, ni Vico ni Kant n'ont réussi à ébranler la croyance générale selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, on devrait pouvoir découvrir comment le monde réel est réellement. La persistance de cette croyance tient, à mon avis, à ce que nous avons tous de nombreuses connaissances auxquelles nous faisons confiance lorsque nous nous demandons comment agir. Par exemple, quand nous descendons un escalier, nous ne doutons pas que les prochaines marches se trouveront là où elles doivent être. Nous manifestons le même genre de confiance dans une grande variété de contextes. Ainsi, l'autre jour, quand j'ai pris la route pour Québec, je n'avais pas de doute qu'elle me portera ici et que je trouverai la belle ville que j'ai connue lors de mes visites précédentes. Une telle confiance dans la permanence des objets et des circonstances est essentielle dans la vie de tous les jours, même si les choses ne se passent pas toujours comme on les avait prévues. Nous avons simplement besoin de croire que, dans l'ensemble, le monde dont nous faisons l'expérience est un monde stable. Mais cette croyance ne devrait jamais nous amener à supposer que ce monde dont nous faisons l'expérience doit être semblable à une réalité situé au-delà de cette expérience. Comme j'ai déjà souligné, les grands scientifiques du siècle passé était conscient de cette impasse épistémologique. Les physiciens, par exemple, doivent bien sûr supposer que le monde dont ils font l'expérience et qu'ils observent de manière expérimentale est un monde stable. Mais cette supposition, peu importe jusqu'à quel point elle fonctionne, ne permet pas de conclure que leurs explications peuvent rendre compte d'une réalité qui serait indépendante de l'observateur. Cette position agnostique peut être justifiée en vertu de toutes sortes de considérations épistémologiques. Mais comme je veux me centrer sur les concepts, je citerai plutôt ce que Albert Einstein a écrit il y a 50 ans. Et je cite, « Les concepts physiques sont des créations libres de la pensée humaine et ne sont pas, même s'ils semblent d'être, uniquement déterminés par le monde extérieur. » Du point de vue constructiviste, créer des concepts est une forme de construction. Et quelles que soient les circonstances, une construction engage la réflexion, c'est-à-dire la prise de conscience des connexions que l'on peut faire en coordonnant des éléments sensoriels ou des opérations mentales. Piaget parle généralement de coordination, et celle-ci est évidemment effectuée par un esprit, un mind, un agent actif. Un très grand nombre de ces coordinations deviennent rapidement des habitudes et sont alors accomplies sans que l'on en soit conscient. Les opérations mentales ne peuvent être décrites et on ne peut pas avoir des images des opérations mentales car elles ont lieu nécessairement dans la tête de quelqu'un. Mais voici une image qui montre que c'est vous et vous seul qui organisez votre perception. Alors, la plupart de vous voient, je crois, un assemblage de taches noires. C'est ce qu'il y a là, dans la réalité. Et maintenant, vous reconnaissez quelque chose de bien connu. Je crois que vous avez reconnu un chien. Alors, je vous demande, où est ce chien ? D'un côté, c'est un assemblage de tâches sans aucun ordre. Si je le tourne, vous voyez le chien. Il me semble évident que c'est vous qui avez fait ce chien avec le matériel qu'il y a sur l'écran. Mais le matériel est presque neutre, n'est-ce pas ? Le matériel ne fait rien d'autre que donner à vous la possibilité de créer le chien. Je vous vais présenter un deuxième exemple. Vous connaissez sans doute la constellation d'étoiles nommée Cassiopée. Il s'agit d'un W majuscule. Cette constellation est près de l'étoile polaire, à l'opposé de la Grande Ourse. Les Grecs l'appelaient la couronne de Cassiopée. Depuis 3000 ans, cette constellation s'observe sans changement apparent. Elle est bien plus permanente et durable que beaucoup d'autres objets qu'on considère permanents. Votre maison, je ne sais, tant de choses qu'on considère permanents, mais ils ne sont pas tellement permanents. Mais encore une fois, je demande, où est cette constellation? Elle est évidemment dans le ciel, pourriez-vous dire. Mais je vais vous montrer qu'elle n'est pas dans le ciel. Gamma est 2 fois plus éloigné. Bêta est 3 fois plus éloigné. Et la distance jusqu'à Epsilon est de 520 années-lumière. Ce que signifie qu'elle est 10 fois plus éloignée de la Terre que les 2 premières étoiles. Imaginez maintenant que vous voyagez dans une navette spatiale en direction d'Epsilon. Que se passe-t-il? Après quelques années-lumière, le W que vous aperceviez depuis la Terre s'est tellement étendu que vous avez peine à relier les 5 étoiles. Après avoir parcouru 1/10 de la distance, Alpha et Delta sont derrière vous, la constellation sur laquelle reposait la confiance des navigateurs en mer pendant des siècles et a disparu. En d'autres termes, voir ce W dépend de 2 choses. 1. L'adoption d'un point d'observation spécifique et 2. La mise en œuvre d'opérations spécifiques de perception. Ces opérations de perception, qu'est-ce qu'elles sont? Piaget a toujours soutenu que la perception était une forme d'action. Mon ami et maître Silvio Cecato en Italie a suggéré que c'est le mouvement de l'attention qui génère les formes et les figures que nous percevons. L'attention, disait-il, n'est pas un projecteur qui illumine les objets. C'est plutôt comme une pulsation qui se focalise sur des différences sensorielles et qui, en bougeant d'un point à un autre, produit un contour. Ainsi, une fois que vous avez repéré des étoiles dans la nuit, la focalisation permet de les connecter en passant de l'un à l'autre. Alors je peux ajouter, si vous observez comment vous percevez une chose très grande qui couvre presque tout le champ visuel, si vous faites attention à ce que vous-même faites, vous pouvez regarder comme le centre de vue passe sur ce cadre, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme une carte postale unie que vous percevez ça. Vous percevez ça à petits pas et vous avez un parcours de perception. Et quelquefois, si ce parcours suit une différence sensorielle, vous en pouvez faire un contour. Il existe toutefois plusieurs possibilités de faire la connexion entre ces 5 étoiles. Ce sont les mêmes étoiles, mais vous ne les voyez plus comme une W, mais comme des autres structures. On peut produire ces configurations comme tentative à trouver quelque chose de familier. Comme dans le cas du chien, nous avons tendance à voir ce que nous avons déjà vu. C'est-à-dire, on assimile au sens piagétien. Et dans le monde occidental actuel, le W est sûrement la configuration la plus familière pour lier ces cinq points. Les Grecs n'avaient pas de W, mais ils couronnaient régulièrement des héros, des rois et reines, et ils percevaient alors les cinq étoiles comme une couronne. Et c'est tout à fait possible si on fait ça. Peut-être vous croyez qu'il s'agit simplement d'artifices optiques et que les concepts importants qui préoccupent les enseignants et enseignantes doivent être bien plus réels que des images dans la tête des gens. Permettez-moi donc de vous expliquer comment je pense qu'un concept très important pourrait être construit par les enfants. C'est le concept de pluralité. Comment un enfant parvient-il à utiliser correctement la forme plurielle des mots? Imaginez une petite fille de 2 ans qui a appris récemment à dire le mot cheval lorsqu'elle aperçoit un animal à la langue crinière plus grand d'un chien et qui hennit lorsqu'elle s'en approche. Un jour, elle se promène à la campagne en compagnie de sa mère et elle passe tout près d'un pré dans lequel broutent plusieurs chevaux. Avec une touche de fierté, la petite fille pointe en direction du premier cheval et dit « cheval ». Peut-être elle fait de même en pointant un autre « cheval ». Si vous avez un petit enfant, vous connaissez ce phénomène que le linguiste appelle « labeling » en anglais. Les enfants, quand ils sont en train d'apprendre les mots, ils utilisent le mot le plus possible. Alors, quand la petite fille fait ça plusieurs fois, la mère peut-être dit « Oui, ma chérie, il y a des chevaux ». Il est possible que la petite fille remarque la différence de prononciation pour la première fois. Quoi qu'il en soit, elle entendra la forme plurielle de ce mot dans d'autres situations. Et, à la surprise générale, il ne faudra pas beaucoup de temps avant qu'elle emploie le singulier et le pluriel suivant les conventions linguistiques. Comment l'enfant apprend ça? Tous les chevaux qu'elle a vus correspondent à une sorte de matrice de reconnaissance. Cette matrice est le résultat à ce que Piaget appelle l'abstraction empirique, et c'est à cette matrice que la petite fille a associé le mot cheval. Mais aucun de ces chevaux pris individuellement ne peut lui dire qu'il appartient à une pluralité que les adultes nomment chevaux. Cette différence doit littéralement être conçue. Ce n'est pas une question de perception visuelle. Elle ne peut pas être fabriquée que par une réflexion sur les propres opérations. Apparemment, cela a été tellement tenu pour évident que, aussi loin que je me souvienne, aucun chercheur en psychologie du développement n'en a fait mention. Pourtant, ça ne veut pas dire que cela a été correctement compris. La construction du concept de pluralité exige au moins la réalisation des opérations suivantes. Lorsqu'on a reconnu un objet, par exemple un cheval, l'attention doit se déplacer immédiatement sur au moins un autre objet reconnaissable par la même matrice de reconnaissance. Le point saillant est qu'une seule matrice de reconnaissance peut être appliquée avec succès plus d'une fois dans le même contexte. Cette répétition ne réside pas dans les objets, c'est une action. Et prenons l'exemple des chevaux dans le pré, aucun d'eux ne fournit une indication quant à la présence des autres chevaux. La répétition peut seulement émerger de ce que fait la personne qui perçoit. Cela veut dire que, pour utiliser le pluriel correctement, l'enfant doit, d'une certaine manière, prendre conscience de ses propres opérations de reconnaissance. Cecato a inventé l'expression « la consapevolezza operativa », qui veut dire la conscience opérationnelle, pour désigner ce processus qui, je crois, est assez similaire à ce que Piaget a appelé, de manière sans doute moins évidente, la thématisation. J'ai utilisé cet exemple du pluriel de nombreuses fois, car c'est le plus clair et le plus simple que je connaisse. Des concepts tels que commencement et fin, durée et changement, espace et temps, tous les concepts abstraits peuvent, de mon point de vue, être expliqués de la même manière. Leur construction peut certes requérir des opérations mentales différentes et parfois complexes, mais c'est toujours l'attention que l'observateur accorde à son propre fonctionnement opératoire que les fait émerger. Si vous trouvez cette analyse appropriée, vous serez peut-être d'accord avec ma conviction que cela comporte une variété de conséquences pour l'enseignement. Lorsqu'il devient clair que les élèves doivent construire leurs concepts à partir de leurs propres réflexions, l'idée que les concepts sont transmis au moyen du langage n'est plus défendable. Comme j'ai essayé de montrer au commencement de cet exposé, les mots que l'on prononce sont interprétés par les autres en fonction de concepts qu'ils ont déjà. C'est seulement si leur première interprétation ne semble pas avoir de sens qu'ils tenteront peut-être d'élaborer une nouvelle conceptualisation. Mon ami Umberto Maturana a suggéré que la fonction du langage est d'orienter. Je considère que c'est là une proposition perspicace. Parce que, par conséquent, je n'entretiens pas l'illusion que mon exposé ici puisse vous fournir un nouveau réseau conceptuel. Je serais très content si j'ai pu semer ça et là une doute que vous conduira peut-être vers de nouvelles constructions. Cette réflexion me conduit à soulever un point de vue que j'estime incontournable pour la didactique. Il n'y a pas de méthode infaillible pour enseigner la pensée conceptuelle. Mais une de celles qui a le plus de succès consiste à présenter aux étudiants des situations dans lesquelles leur manière habituelle de penser échoue. Je vais vous présenter un exemple de cette méthode qui a été mise à l'essai par Leonard and Therese dans notre institut à l'Université de Massachusetts. Voici une représentation schématique d'un dispositif qui me rappelle un jeu qu'on jouait lorsque nous étions enfants. quand nous étions enfants, et il y avait un grand tas de sable ou à la plage, on faisait des traces de bobsleigh. Et avec les billes qu'on avait, on faisait des courses pour voir quelle des billes était la plus vite. Ici, vous voyez illustrer deux pistes sur lesquelles des billes en acier peuvent rouler presque sans perte d'énergie liée à la friction. Les deux pistes ne sont pas identiques, mais le départ et l'arrivée sont à la même hauteur dans les deux cas. La question qui se pose alors est de prévoir laquelle des deux billes atteindra la première, la ligne d'arrivée, si elles partent en même temps. Vous êtes libre à faire votre prédiction. Je ne veux pas vous embarrasser et que vous la me dites. Parmi les élèves qui débutent l'étude de la physique, il y a un certain nombre qui répondent que la bille numéro 1 arrivera la première, car la bille numéro 2 a un chemin plus long à parcourir. D'autres prédisent que les deux billes arriveront en même temps, car si la bille numéro 2 gagne du temps dans la descente, elle opère dans la montée. Il est très rare que l'un d'eux réponde que la bille numéro 2 gagnera la course. Ainsi, la surprise est grande lorsqu'on laisse rouler les billes et que, à chaque essai, la bille numéro 2 parvient la première à la ligne d'arrivée. Quelques élèves rient et prétendent que l'on a truqué le dispositif. Nous leur assurant qu'il n'y a pas de trucage et nous leur demandons de décrire de manière aussi précise que possible ce que se passe dans chaque section du parcours. Au début, ce n'est pas facile de les amener à parler. Mais quand nous leur disons que ce n'est pas du tout un test, et que nous voulons seulement qu'ils partagent avec les autres ce qu'ils pensent. Il y a un ou deux qui lancent la discussion. Puis les autres se joignent à eux, et en général, ils se mettent rapidement d'accord à propos des descriptions suivantes. Les deux billes arrivent au même moment et à la même vitesse au point A. La pente qui va de A à B fournit une accélération à la bille numéro 2 qui atteint le point B avant la bille numéro 1. À ce point, on demande, la bille numéro 2 a de l'avance, demandons. Oui, au point B, la bille numéro 2 a de l'avance. Mais ensuite, elle doit monter la pente, ce qui lui fait perdre cette avance. Nous leur demandons alors, et au moment où la bille numéro 2 atteint le point C, roule-t-elle plus vite ou moins vite que la bille numéro 1? Habituellement, cette question suscite une discussion plus longue, mais éventuellement, les élèves s'accordent à dire que l'accélération négative de la montée est égale à l'accélération positive de la descente et que le début que les deux billes devraient donc avoir la même vitesse au point C. C'est alors que certains pressentent que la bille numéro 2 roule plus vite que la bille numéro 1. Tout au long le trajet de A à C. L'avance qu'elle gagne compense largement pour la différence de longueur des deux trajets et en conséquence, elle atteint la ligne d'arrivée, la première. Bien sûr, tous les élèves ne sont pas immédiatement convaincus, mais celles qui ont entrevu la solution sont généralement infatigables lorsqu'il vient le moment de l'expliquer aux autres. Finalement, la plupart comprennent comment, en tant que physiciens et physiciennes, il leur faut conceptualiser la situation. Je considère cet exemple comme un cas idéal d'enseignement et d'apprentissage. L'on présente une situation dans laquelle le réseau des concepts explicatifs des élèves se révèle insatisfaisant. Rien n'est jugé faux et on ne fournit aucune explication correcte. La pensée des élèves est simplement orientée de temps en temps par des questions neutres. Les principes essentiels du constructivisme didactique sont implicites dans cet exemple. Ils sont simples, mais j'aimerais mettre l'accent sur certains d'entre eux. Premier, l'enseignement ne doit pas débuter avec la présentation des vérités sacrées. Plutôt, il faut créer des occasions susceptibles de provoquer la pensée des élèves. À cette fin, un des préalables est que les enseignants et enseignantes croient que les élèves peuvent penser. Chez nous, aux États-Unis, c'est une croyance bien rare. Il ne suffit pas que les personnes qui enseignent soient familières. Ah, c'est le deuxième point. Il ne suffit pas que les personnes qui enseignent soient familières avec le contenu des programmes. Ils doivent également avoir un répertoire de situations didactiques dans lesquelles les concepts à construire peuvent être impliqués. De plus, les situations devraient être élaborées de façon à mobiliser l'intérêt spontané des élèves. Et c'est ça une difficulté énorme. Ce n'est pas toujours facile à mobiliser l'intérêt des élèves. Ces deux exigences sont souvent négligées. Le fait que les concepts ne peuvent se former que dans le monde expérientiel de l'individu est souvent perdu de vue. Troisième point, lorsque les élèves montrent leur travail, il ne faut jamais dire que c'est faux. Les élèves produisent rarement une solution au hasard. Ils ont travaillé et si le résultat qu'ils considèrent juste à un moment donné n'est pas celui auquel pensait l'enseignante, leurs efforts doivent néanmoins être reconnus. Négliger leurs efforts est un moyen sûr pour éteindre toute étincelle de motivation qui a pu naître chez eux. Il n'est alors pas surprenant que leur volonté de s'attaquer de nouvelles tâches disparaisse si on ne tient pas compte de l'effort qu'ils ont fait dans le passé, même si l'effort n'était pas dans la direction juste. Bien, je commençais mon exposé en insistant sur la relativité du sens des mots. C'est un point sur lequel j'aimerais revenir une fois de plus en relation avec le contexte de l'enseignement. Plusieurs des mots que les enseignants associent habituellement à des significations spécialisées dans leur discipline évoquent des associations très différentes chez les élèves débutants. Ce n'est que lorsque ces concepts dits naïfs sont reconstruits en toute conscience que la compréhension du réseau conceptuel, surtout dans le domaine scientifique, qui est souhaité, devient possible. Afin de favoriser la formation de nouvelles relations conceptuelles, les enseignants et enseignantes doivent avoir au moins une certaine idée à propos des théories des élèves, les théories que les élèves portent à la leçon. C'est seulement s'ils ont un modèle de ce que pensent les élèves, qu'ils peuvent commencer à orienter un enchaînement des idées et essayer de prévenir la construction d'idées inappropriées. Point 5, la formation de concepts appuie bel et bien sur la réflexion. Qui voudrait enseigner doit avoir les moyens pour la susciter. La façon la plus facile est de faire parler les élèves à propos de ce qu'ils pensent. La verbalisation oblige à revoir ce que doit être verbalisé. Cette révision est une forme de réflexion qui fait souvent ressortir des inconsistances ou des lacunes dans un enchaînement d'idées. C'est une chose que tous les écrivains savent très bien, parce que le moment qu'on se met à écrire quelque chose, on trouve souvent que la pensée n'est pas encore correcte, qu'il y a des sauts là qu'il faut remplir. Il est donc crucial d'initier des conversations lorsqu'il faut résoudre un problème. Par exemple, les élèves peuvent expliquer leur manière de penser à l'enseignant ou encore à leurs camarades. Ces deux situations favorisent la réflexion et constituent le début de ce que Cecato appelait la conscience opérationnelle. À la langue, cela devient une habitude pour les élèves, et toute occasion de résolution de problèmes peut alors se transformer en une conversation avec soi-même. C'est amusant que Cecato parlait de conscience opérationnelle et Piaget thématisation vers la moitié du dernier siècle. 20 ans après, les psychologues américains inventaient la métacognition pour s'approcher au même phénomène. Eh bien, je vais conclure. Mais avant de terminer, j'aimerais répondre à l'objection la plus fréquente qui est faite à l'approche constructiviste par les personnes chargées de l'enseignement. Tout cela, disent-elles, est bien beau et même raisonnable, mais comment trouver le temps de s'engager dans des activités qui sollicitent la pensée individuelle des élèves? La pression pour maintenir le rythme que le programme scolaire impose est déjà plus qu'on peut gérer. Ma réponse est simple et peut sembler utopiste. Mais il y a de plus en plus d'indices tendant à montrer que ça fonctionne. Supposons que vous consacrez une ou même deux leçons complètes à la réalisation d'une expérience semblable à celle des billes que j'ai présentées. Dans notre institut, cette expérience vient répéter presque chaque année et on voit que les élèves y apprennent bien plus que la seule explication de résultats surprenants. Ils commencent à réaliser que la réflexion consciente est le secret de la compréhension. Par ailleurs, on peut ajouter que, s'agissant de l'enseignement de la physique, cette seule expérience recèle diverses possibilités pour traiter l'or de leçons subséquentes, des concepts de vélocité, d'inertie, de gravitation, de friction et de résistance de l'air. Et ce, en relation, on peut faire ça, en relation avec une situation dont les élèves ont fait l'expérience. C'est quelque chose que les élèves ont vécu. Si vous leur donnez une ou deux occasions supplémentaires de ce type, ce qu'ils ont réalisé lors de la première expérience se confirme et ils ont appris à penser. À partir de ce moment, ils pourront s'attaquer à toutes sortes de nouveaux problèmes de manière productive et ils auront gagné une certaine confiance, un des préalables de la motivation. Et bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous me croyez, mais j'espère que vous ferez l'essai de quelques-unes des suggestions que j'ai mentionnées, car ainsi vous pouvez voir pour vous-même que ça fonctionne. Je vous remercie.